Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Bonjour également aux équipes techniques de Radio Courtoisie. Au micro, Marc Favre des Chalins. Je reçois ce matin Philippe Pichon, essayiste, critique, poète et maîtresse jeu de l'Académie des Jeux Fleuraux, qui rendra hommage en début d'émission, par téléphone, à Vénus Kourigata, femme de lettres franco-libanaise, qui vient de disparaître. Ensuite, nous aurons un entretien avec Paul-Marie Couteau, écrivain, essayiste, ancien député européen, homme politique et patron d'émission de Radio Courtoisie. Le thème de l'émission est « L'avenir s'écrit aussi en français ». Au préalable, je vous rappelle les coordonnées de défense de la langue française, son adresse postale, 222 avenue de Versailles, 75016 Paris, son numéro de téléphone 01 42 65 08 87, son adresse courriel dlf.contact@orange.fr, son site internet www.langue-française-cedi.org. Nos auditeurs qui le désirent peuvent demander un exemplaire de la revue de défense de la langue française au numéro de téléphone que je viens d'indiquer. Les activités de défense de la langue française et des autres associations de promotion et illustration de la langue française, comme Avenir la langue française, sont diverses et variées. Les adhérents et sympathisants de ces associations agissent sur le terrain. Nos auditeurs connaissent déjà les interventions auprès de la presse écrite, dans les médias audiovisuels, pour la qualité de la langue et lutter contre les dérives de l'écriture faussement inclusive et les utilisations abusives de l'anglais et de néologismes souvent en provenance de l'anglais mondialisé dans le monde du travail et dans le monde du sport. Nos auditeurs ont malheureusement pu le constater lors des Jeux Olympiques de Milan-Cortina qui vient de se terminer, où énormément de termes anglais ou anglo-saxons ont été utilisés, notamment par France Télévisions, mais aussi dans la presse écrite. Il faut quand même préciser que la délégation générale à la langue française et aux langues de France avait pourtant publié un lexico-sport qui permettait, en quatre langues, français, anglais, italien et allemand, qui permettait d'utiliser la langue française. Ainsi, le départ groupé pour le biathlon et ça s'appelle départ groupé en français et mass start, et on a vu que du mass start, malheureusement. Bon, cette anglo-latrie se rencontre dans beaucoup de médias. Les auditeurs et les auditrices peuvent aller sur les sites de ces radios, en particulier du site de Radio France, où il y a un onglet lettre de la médiatrice qui publie une rubrique langue française qui recense ces différentes dérives. Donc, faut pas hésiter à aller sur ce site. Je rappelle aussi que aux fidèles auditeurs de Radio Courtoisie que Jean-Pierre Collignon organise des dictées. Il faut aller sur son blog. Il faut aller également sur le blog de la dictée géante de Rachid Santaki, que nous avons reçu le 3 novembre, et pour voir les dates des différentes dictées qu'il organise avec différentes associations dont Défense de la langue française. Les associations agissent aussi sur le terrain juridique, en particulier des recours contentieux pour violation de la loi Toubon, la loi du 4 août 1994, concernant les violations de cette loi par les collectivités et établissements publics pour non-respect de la signalétique, où il y a un oubli très fréquent de la double traduction. Donc nous mettons en œuvre des recours gracieux, puis aussi des recours contentieux. Il y a également une action qui est menée avec la RPP, l'autorité de régulation professionnelle de la publicité, qui minore l'application de la loi Toubon en appliquant une jurisprudence du Conseil d'État qui s'appelle le droit souple. Là, il est très très souple en ce qui concerne la RPP. La RATP a répondu à un recours gracieux où il l'avait utilisé dans les voitures des transports parisiens, une indication pour ne pas oublier son bagage, uniquement en anglais, don't forget your bag. Il s'engage pour supprimer la version anglaise, ou plutôt pour ajouter une troisième langue, ce qui serait parfait. Avant de terminer, je rappelle quelques ouvrages, en particulier l'ouvrage de Michel Feltin-Palas, c'est quoi déjà le titre en français, sous-titré « Les anglicismes et nous ». D'ailleurs, Défense des langues françaises organise un déjeuner le 12 mars. Il suffit de téléphoner une nouvelle fois à la Défense des langues françaises. Je rappelle aussi les livres de Philippe Pichon, qu'on va entendre dans quelques minutes. Les Hussards, mousquetaires des lettres, des années Solex aux minutes McDo, qui est un essai, édition du verbe haut, 25 euros. Qui permet de comprendre tout ce qui est le mouvement des Hussards, Michel Déon, Nimier et bien d'autres, et les deux autres mousquetaires, Cécile Saint-Laurent en particulier, et Blondin. Voilà. Et donc, et enfin pour terminer, je cite la revue Livre Arbitre numéro 52 qui vient de paraître et qui consacre un numéro à Roger Nimier. Et ainsi que la revue Le Nouveau Conservateur, qui a pour directeur de la publication Paul-Marie Couteau, que nous recevrons après l'entretien avec Philippe Pichon. Donc nous allons, avant d'entendre Philippe Pichon, passer un petit moment musical.
Odeur des myrtilles dans les grands paniers, que demeure-t-il de nous au grenier? Odeur des myrtilles dans les grands paniers. Ombre, mon royaume, je retrouverai les anciens arômes et les noirs portraits, les enfants qui dorment, les fauteuils boiteux, les ombres difformes, la trace des jeux. Odeur des myrtilles dans les grands paniers, que demeure-t-il de nous au grenier? Odeur des myrtilles dans les grands paniers. C'était moi peut-être, ou peut-être vous, les yeux des fenêtres sont vides et fous. Dans les mois de paille, il fait doux guetter le cri court des cailles, divisant l'été. Odeur des myrtilles dans les grands paniers, que demeure-t-il de nous au grenier? Odeur des myrtilles dans les grands paniers. Le vent se repose au bord bleu du temps, les ronds gris roses marchent sur l'étang. Il me semble entendre un train loin d'ici, dans les osiers tendres, le jour est assis. Odeur des myrtilles dans les grands paniers, que demeure-t-il de nous au grenier? Odeur des myrtilles dans les grands paniers. La fin d'août paraisse, et les arbres font de lentes caresses au plafond profond. Mémoire qui meurt, photos effacées, rumeurs, oh rumeurs, des choses passées. Odeur des myrtilles dans les grands paniers, que demeure-t-il de nous au grenier? Odeur des myrtilles dans les grands paniers.
Je crois que nous avons Philippe Pichon en ligne.
Oui, merci de votre invitation.
Oui, je vous entends.
Oui, merci, bonjour Marc.
Voilà,
merci
bonjour Philippe. Alors, vous allez nous parler d'une grande poétesse, Vénus Kourigata, qui vient de disparaître, qui est une femme de lettres franco-libanaise. Si vous pouviez nous parler un petit peu de ses œuvres et de son parcours.
Et une petite déception préalable, en vous disant que la presse la peu célébrée. Elle était connue dans le milieu littéraire, mais peu connue du grand public, malgré ses distinctions. Alors, première chose, ça vous a pas échappé, Marc, elle est née en hiver, puisqu'elle est née en décembre 37 au Liban. Elle est décédée en hiver, en janvier 2026. Et pourtant, elle n'a cessé de chanter le printemps et l'amour. Et je pense que d'abord, on peut dire que c'est aussi ça, Vénus Corrigata, toujours une sorte de bonheur contrarié. Ça vous a pas échappé non plus. Elle a commencé son œuvre avec un recueil de poèmes et elle va l'achever avec un recueil de poèmes. Son premier recueil s'appelle les visages inachevés dans c'est presque une petite plaquette. Et elle le finit avec un magnifique recueil qui s'appelle Désarroi des âmes errantes en 2024 au Mercure de France.
Absolument. C'est pour ça que je me suis permis de passer la chanson de Jean Ferrat, Odeur des Myrtilles, sur un poème de Louis Aragon.
C'est une ode. Alors, on en reparlera. Vous savez que c'est elle qui a fait traduire Aragon en arabe, mais on en parlera vite. Je sais que j'ai très peu de temps. Je vais essayer de vous dire quelle était mon admiration pour Corrigata. Vous avez remarqué également que ses titres sont souvent des questions. Qui parle au nom du jasmin, quelle est la nuit parmi les nuits, à quoi sert la neige, où vont les arbres, etc. Rappelez que l'œuvre est quand même considérable, hein, vous l'avez dit tout à l'heure, que c'était quelqu'un de grand. Il y a 26 romans qui ont paru chez Actes Sud Flammarion, mais surtout au Mercure de France. Il y a 33 recueils de poèmes, là encore, Segers, Bruno Doucet, mais aussi là, essentiellement au Mercure de France. À ma connaissance, il y a un recueil de nouvelles, mais jamais elle ne s'est aventurée, j'allais dire, dans le domaine théâtral ou le genre de l'essai. Il y a beaucoup de recueils pour enfants aussi, et surtout, rappelez à nos auditeurs qu'elle est traduite en 15 langues. Vous le disiez tout à l'heure, célébrée, on compte plus les prix et distinctions littéraires. Il y a le Guillaume Apollinaire au début de sa carrière, le prix Mallarmé. D'ailleurs, elle était membre de l'Académie de Mallarmé. Elle a eu le Grand Prix de poésie de l'Académie française pour l'ensemble de son œuvre. Elle a eu le Goncourt de la poésie pour Où vont les arbres plus récemment. Elle a eu le fameux prix international Ganzo. Et c'est là que je la retrouve. Elle est élue à l'Académie des Jeux Florons en 2022.
Donc vous êtes vous-même un lauréat.
Oui, mais enfin, je ne pèse rien vis-à-vis de Corrigata, évidemment. Je l'avais rencontrée bien plus tôt, moi, puisque 20 ans auparavant, ou quelque chose comme ça, elle arpentait, si je puis dire, mais avec plus succès que moi, les couloirs d'un éditeur indépendant qui s'appelle L'Archipel, où elle a fait un roman qui s'appelle La Revenante. Et c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup, qui parlait au nom du jasmin, je dis souvent. Vous savez qu'elle est née dans une maison des collines, comme elle appelait ça, une maison natale qui se retrouve dans un petit village, qui était d'ailleurs le village natal de sa mère également, à côté de Beyrouth, donc au Liban. Un lieu qu'elle aimait beaucoup et qui imprégnait quasiment toute son œuvre. Hein. Elle parlait d'ailleurs du village du bonheur, mais là encore déjà un bonheur contrarié. Elle avait une expression pour ça, elle disait « au nord de tous les nords », puisqu'il était au nord de Beyrouth. Et j'allais vous dire, pour l'avoir vue dans ses plus belles années, si tant est qu'elle en a eu des moins belles, c'était une femme peut-être un peu trop belle, comme déjà une chanson fatiguée. Je veux dire par là qu'elle a eu beaucoup de déconvenues. Vous savez que son premier mariage, dans la fin des années, début des années 60, fin des années 50, se fait avec un homme, un homme d'affaires avec qui elle ne va pas, je crois, être trop heureuse. Elle fait des études littéraires, là encore, de lettres supérieures à Beyrouth. Elle va être un peu journaliste, et c'est là où j'en reviens à ma petite histoire. Elle a collaboré à la revue Europe, qui est alors dirigée par Aragon, qu'elle fait traduire en arabe. On l'a dit, elle a commencé avec la poésie, elle finit avec la poésie. Elle s'installe à Paris, elle a à peu près 35 ans, ça c'est début des années 70, et elle va épouser un médecin. Le médecin et chercheur français qui lui donne son nom, j'allais vous dire, son nom d'épouse, Gata. Pour son œuvre, qu'est-ce que je peux vous dire? Pour moi, c'était et c'est pas du tout, c'est plutôt d'ailleurs un très gros compliment, c'était une élégiaque, mais à la sensibilité crue. C'est-à-dire qu'elle était capable de vous raconter des blagues très crues, avec cette voix rauque, suave, charnelle. Je lui avais dit un jour, t'as une toux de montagne. Elle s'était mise à pleurer. Parce qu'elle m'a dit, c'est le plus beau compliment, la plus belle image qu'on ait dit de moi. Parce qu'elle a encore, vous voyez, la toux de montagne, la toux TOUX, c'était bien quelque chose d'à la fois élevé, la montagne, et la toux, quelque chose de rentré. Il y avait une forme de romantisme atténué, si vous voulez, chez Corrigata, C'est-à-dire qu'elle se vivifiait sans cesse au contact de la nature, et en même temps, elle avait besoin de silence profond.
Je me permets de vous couper, je ne peux que conseiller aux auditeurs et aux auditrices de lire ces œuvres afin de pouvoir se faire une opinion. Vous pouviez, pour terminer, nous donner quelques indications d'œuvres.
Absolument. Alors, à vous expliquer aussi que ce jour, il n'y a aucune biographie de Vénus Corrigata. Et ce que je préfère, moi, ce que je pourrais être mes livres de chevet, voulez-vous un roman, un recueil ?
Un recueil,
alors, pour
oui.
Pour moi, un recueil. Ça serait, alors, si c'est un seul recueil, ça serait Les ombres et leurs cris chez Belfond en 79, qui a été couronné.
Ça peut être un deuxième.
Quand même, alors, ça va être un roman. La fiancée était à Dodan, beaucoup plus récent, au Mercure de France. Et je peux pas finir sans vous dire ça. Pour ceux qui ne connaîtraient pas l'œuvre, il y a quand même une anthologie personnelle qui est apparue chez Actes Sud. Et surtout, vous me le permettrez, ce très beau livre d'entretien qui a été mené par une écrivaine dont je n'oublie pas, quand j'oublie le nom, qui s'appelle Ton Chant, dont le titre est Ton Chant est plus long que ton souffle, qui me semble bien résumer toute l'œuvre de Vénus Corrigata.
Eh ben, je vous remercie, Philippe Pichon. À bientôt sûrement, et nous allons en parler encore de francophonie avec Paul-Marie Couteau. Et...
Saluez-le bien de ma part, on salue jamais assez les gens qui sont encore vivants.
Ah, c'est trop gentil. Bon, je vous souhaite une bonne journée. Cher Philippe.
Paul-Marie. Paul-Marie s'en rappelle plus, mais on s'est croisés à l'époque où De Villiers, Pasqua et...
Mais je me souviens très bien, Philippe.
Ah bon, d'accord.
Alors, je n'ai pas gâté au point d'avoir un pied dans la tombe, comme vous le disiez gentiment il y a 30 secondes, et en plus d'avoir tout oublié, non, ça.
D'accord.
J'en suis pas là. J'ai 69 ans, mon cher, j'espère avoir encore quelques années à vivre, si vous voulez bien.
Voilà. Bon. Justement...
Avant nos tombes respectives, mon meilleur souvenir, Paul-Marie.
Merci, Philippe. Voilà. Et bravo d'ailleurs d'avoir rendu hommage à cette femme qui, je crois, est la fille ou la femme de l'écrivain libanais. Vous ne l'avez pas souligné. J'ai oublié, justement, en vous écoutant, je cherchais le prénom de son mari, Koury. Quel était son prénom?
C'était la sœur aînée d'une poétesse également, et c'était surtout, je ne me rappelle plus, je vais essayer en même temps, et elle avait une vive admiration pour Khalil Gibran, vous savez, ce poète, et je cherche le nom de son mari qui est libanais, mais je ne le retrouve pas au moment où vous me... C'est un piège, et au moment où
écrivain
vous me
célèbre, très connu à Saint-Germain-des-Prés dans les années dans les années 50 justement.
Qui l'a fait rentrer d'ailleurs aux éditions Saint-Germain-des-Prés pour ses premiers recueils.
Voilà.
On va demander aux auditeurs
hommage
de
aux deux Koury. J'ai oublié le prénom de son mari.
Très bien, merci Philippe.
Je vous en prie.
Et nous allons faire respiration musicale.
À bientôt. Merci à vous.
Avec une chanson qui pourra introduire le sujet suivant. L'avenir s'écrit aussi en français. Une chanson de Patricia Cass qui est une reprise d'Edith Piaf. « Pourquoi cette chanson? C'est parce que c'est sur cette chanson et d'autres chansons d'Édith Piaf reprises par Patricia Cass que patinait il y a quelques jours la grande patineuse artistique Kaori Sakamoto, qui a eu 2 médailles d'argent. Donc elle patinait sur des chansons en français, La vie en rose, Non rien de rien, donc c'était toujours pour faire. Point, la chanson française est toujours vivante. Et il y avait également d'autres chansons françaises. Mais évidemment, il n'y avait pas que de la chanson française. Donc je suis maintenant avec Paul-Marie Couteau, directeur de la publication du Nouveau Conservateur.
Ah non, c'est pas moi. Philippe l'a dit tout à l'heure, le directeur de la publication du Nouveau Conservateur.
Voilà, du Nouveau
c'est
Conservateur.
C'est Guillaume de Thieulois, en réalité.
Voilà.
Je fais équipe maintenant avec deux personnages magnifiques. Guillaume de Thieulois, qui est directeur de la publication. Je ne fais que diriger la rédaction. Et Christophe Oren, dont je me plais à saluer le nom, parce qu'il fait un travail formidable pour assurer la publication mensuelle. On a changé de rythme, on est passé du trimestriel au mensuel, et sans Christophe Oren, nous n'y arriverions pas. Mais voilà, nous sommes au moins un trio, à tout le moins.
C'est parfait.
Désormais.
Alors nous allons parler francophonie, langue française, langue de l'ouverture. Alors, Paul-Marie Couteau, l'avenir s'écrit aussi en français ?
Ben oui, mais pas en France.
Oui, mais...
c'est le problème.
Pas vraiment en France.
L'avenir s'écrit en français, mais pas en France. Alors, c'est intéressant ce que vous disiez à propos des Jeux Olympiques, mon cher Marc, parce que ça met le doigt sur notre grand problème, ceux qui défendent la langue française. Radio Courtoisie le fait depuis 50 ans ou 60 ans, je ne sais pas combien, enfin des décennies. Nous autres
1988, je crois.
Oui, mais enfin... Pour nous, c'est naturel de défendre notre langue. Nous nous sommes rencontrés à la faveur d'un prix. Même on a plus ou moins inventé ensemble le prix,
oui,
de la carpette anglaise.
Prix de la carpette anglaise, oui.
Qui se transforme maintenant, enfin qui s'élargit, puisque nous avons maintenant un prix du tapis rouge pour récompenser. Parce que la carpette anglaise récompense, entre 18 guillemets,
des
personnalités qui naufragent, comme vous dites, la langue française. C'est transitif, le verbe naufragé, enfin bon,
qui coule,
la langue française.
Carton.
Bon, qui torpille, pour rester dans le vocabulaire maritime, la langue française. Ça, c'est tous les ans au mois de décembre, un titre français, un titre étranger. Et puis, nous lançons aussi le tapis rouge pour récompenser de ceux qui illustrent la langue française. Alors, il faudrait faire un prix étranger, mon cher Marc, et avec un jury renouvelé, d'ailleurs.
Mais je crois qu'il y a déjà eu un prix...
Oui, il faut lui donner plus d'ampleur. Et alors, étranger, on pourrait le donner à cette patineuse japonaise. Vous ne dites pas qu'elle est japonaise, encore que...
Mais elle est japonaise, oui.
Son nom parle pour elle.
Oui,
enfin,
Kaori
pour sa
Sakamoto est japonaise, et elle dansait... sur des chansons françaises, sur des reprises, mais c'était
alors
toujours...
Vous savez, ça dit tout, mon cher Marc. L'avenir s'écrit en français, mais pas en France, à l'étranger, oui.
Ah oui, non, c'était...
Et la France, c'est ça le point sur lequel il faut mettre l'accent d'emblée, c'est qu'il arrive ce que nous redoutions, c'est que la France devient un pays bilingue, en réalité.
C'est ça. Et d'ailleurs, on l'a bien vu, puisque la délégation générale à la langue française et aux langues de France, que parfois nous critiquons, mais a publié un opuscule. D'ailleurs, ça, c'est sur Internet, donc c'est interactif, ça s'appelle Lexicosport. Et il suffisait de taper le nom du sport, et il déclinait en français, d'ailleurs en italien et en allemand, et bon, et en anglais.
Oui, mais ça, on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif.
Oui, et donc...
Les Français n'ont pas soif de français.
Et même dans la presse écrite...
Les Français, oui, je sais, mais on ne va pas passer nos décennies restantes, après les décennies précédentes, dans la déploration infinie, ça ne sert à rien. Sortons de la déploration et regardons les choses telles qu'elles sont. Sans doute, c'est la condition de toute résistance, de tout redressement. Quand je dis on ne peut pas faire boire un âne qui n'a pas soif, regardons les choses telles qu'elles sont, et c'est là qu'il faut porter le fer. Les Français n'ont pas soif de français. Ils ont eu soif de français pendant longtemps, quand le français...
La classe médiatique, principalement.
Non, vous ne voilez pas la face. Les Français n'ont plus envie ni de France, dans leur majorité.
Vous n'êtes pas pessimiste.
Et attendez, laissez-moi finir une phrase. Les Français n'ont plus envie de France, et de français parce qu'ils ont envie. Alors peut-être que ça change ces dernières années, je suis optimiste de ce point de vue-là, rassurez-vous, mais depuis 50 ans, 60 ans, en fait depuis la libération, ça fait 80 ans, ils ont envie de ce qu'ils appellent l'Amérique, qui est en fait les États-Unis, ils ont envie de Californie, ils ont envie de New York, ils ont envie de Floride, ils ont envie de parler américain. Le fond de l'affaire, c'est ça, ils ont envie de s'assimiler comme des esclaves à la langue du maître impérial, voilà. Et même quand ils ne parlent pas anglais, ils baragouinent anglais pour s'assimiler au grand empire. Bon, ça c'est la réalité, Marc, et c'est ce à quoi nous sommes confrontés, il faut le regarder en face. Et il est d'ailleurs assez frappant que si on entend du français encore aux Jeux Olympiques, c'est grâce à des étrangers, il n'y a pas qu'elle. Mais
non, il n'y a pas qu'elle. Il y avait un tout petit peu de français, puisque les annonces étaient faites en
De temps en temps, on entendait du français, paraît-il.
Oui, il y avait les annonces officielles, remise des médailles, c'était en trois langues. D'ailleurs, dans la cérémonie de clôture d'hier soir, il y a eu la Marseillaise chantée en français par une chanteuse, une belle chanteuse italienne, une très belle voix, et puisque les prochains Jeux Olympiques se trouvent en France.
En principe, bon.
Voilà, en principe. En
si
tout
on
cas,
arrive à les organiser.
Il y a eu la chanson, la Marseillaise, le drapeau français qui...
Très bien, bravo pour cette chanteuse italienne, pour cette patineuse japonaise, il y en a d'autres, mais tout ça dit toujours la même chose. C'est-à-dire que c'est pas de France actuellement qu'il faut attendre l'assurance que l'avenir s'écrit en français, ou tout au moins que le français est un avenir.
Et d'ailleurs, le président Macron n'était pas présent à la cérémonie de
clôture. Tant mieux, il lui parlait anglais.
Il y avait la présidente du CIO, c'est une zimbabwéenne, et il y avait évidemment Giorgia Meloni, mais il n'y avait pas... Emmanuel Macron,
il avait autre chose à faire que de faire.
Voilà, il avait autre chose à faire.
Mais je reviens à ce que je disais. C'est à partir de ça qu'il faut travailler, mon cher Marc, à partir d'une réalité qui est un bilinguisme dont le fondement est la longue admiration que notre peuple et l'envie et la jalousie ou le désir de s'assimiler à une culture étrangère qui est la culture états-unienne. Ou atlantique, comme on pourrait dire aussi, pour élargir, parce qu'elle est à la fois anglaise, états-unienne et maintenant européenne. J'ai été longtemps député européen, parler en anglais de plus en plus.
Oui, et puis la documentation qui vient de l'Europe, c'est 85 à 90% en anglais.
Et je dis en anglais, vous dites en anglais, en fait c'est de l'américain. L'anglais,
oui, c'est de l'anglo.
L'anglais doit ça, son hégémonie qu'à l'hégémonie américaine. L'affaire est politique, tout simplement politique. Donc, si nous
alors,
voulons...
Alors, l'avenir s'écrit quand même en français, alors.
Si nous voulons... Attendez, j'essaie d'aller au bout de mon raisonnement, si vous laissez 35 secondes. L'avenir s'écrit en français, ailleurs, et pour l'instant, pas en France, car les Français aspirent, et beaucoup de gens, d'ailleurs, disent c'est une bonne chose, à rendre leur pays bilingue. Beaucoup de gens... Même des gens qui se prétendent plus ou moins patriotes, je ne peux pas citer de nom, mais quand je dis ça à quelqu'un assez proche de nous politiquement, c'est une dame, elle me répond, mais tant mieux, comme ça, ça fait un atout de plus, une corde de plus à notre arc. Or, c'est ça ce que je voulais dire, Marc, on est arrivé à ce point. Le bilinguisme, on connaît, historiquement, ça existe. Ça a existé, par exemple, au Québec, dans toute... jusqu'aux années 70, jusqu'au réveil, dans les années 50, 60, le Québec était un pays bilingue. Tous les Québécois nous disent, faites attention, dans un pays bilingue, vous êtes confronté d'abord à deux phénomènes. Le premier, c'est que la langue la plus internationale commence par reléguer la langue nationale dans les foyers, dans les familles, et après, même dans les familles, au fil du renouvellement des générations, on se met à parler la langue étrangère.
D'ailleurs, au Québec, ils ont fait, bon, il y a la fameuse loi 101, ils ont fait une loi 98, ils sont en train de préparer une loi 109 sur les contenus des plateformes, puisqu'ils sont aperçus qu'énormément de jeunes Québécois font directement en anglais sur les plateformes américaines, et pour être visible, ils parlent anglais, même les Québécois. Donc effectivement, ils sont en train de faire une nouvelle loi très, très forte.
Mais la loi ne peut rien tant qu'il n'y a pas un sentiment populaire derrière. Et la deuxième objection que nous faisaient les Québécois et que j'ai fait à cette dame qui me dit « Tant mieux, si on est bilingue, on a plus de cordes à notre arc », c'est que non seulement ça n'est que transitoire, le bilinguisme. Tôt ou tard, la langue internationale chasse...
La mauvaise langue, elle chasse la bonne.
Comme en monnaie.
Comme la monnaie.
Comme la monnaie. La mauvaise monnaie chasse la bonne. Et donc, on ne peut pas accepter un bilinguisme uniquement transitoire qui mènerait à l'unilinguisme reléguant, comme ça s'est passé pour beaucoup de langues régionales d'ailleurs, hein, au fur et à mesure que la République française pénalisait les langues régionales, les langues régionales ont disparu. Bon.
Ou quasiment, d'ailleurs, je note qu'il y a un certain nombre de... entre guillemets, de défenseurs des langues régionales qui sont également des défenseurs de la langue française. C'est
oui.
pas complètement...
Non,
c'est pas du tout antinomique.
Je fais pas du tout d'opposition, contrairement,
pas d'opposition, contrairement à ce qu'on peut croire ou que certains laissent penser.
Et est-ce qu'on fait beaucoup de défenseurs de la langue française? Je me souviens dans les années
voilà,
pour lesquelles j'étais auprès du commissaire général de la langue française.
On voit, par exemple, que l'on préfère avoir passer des heures et des heures pour apprendre l'anglais qu'essayer d'apprendre sa langue régionale parce qu'effectivement, comme vous dites, c'est pour un certain nombre, en particulier des parents, ils considèrent qu'apprendre l'anglais, c'est l'avenir. C'est l'avenir, au moins, de leur progéniture.
Alors, c'est bien pourquoi je dis le bilinguisme, c'est une situation transitoire. Tôt ou tard, le français sera relégué d'abord dans la langue familiale, enfin dans au foyer.
Une langue domestique dans les deux sens du mot, français et anglais.
Oui, et puis... oui et non, parce que c'est plutôt dans la bourgeoisie. Ça existe maintenant en France, des parents qui élèvent leurs enfants...
Les maternelles bilingues
en anglais, mais même dans les familles. Là, je parle des foyers. Même dans les familles, la prééminence du français n'est pas toujours assurée. Même dans des familles françaises, pour peu qu'il y ait, et c'est assez souvent le cas...
Je n'ai pas le déplaisir d'en connaître.
Attendez Marc, s'il vous plaît, laissez-moi finir une phrase. À moins qu'il y ait, surtout s'il y a un des deux parents étrangers, et c'est de plus en plus souvent le cas, en tous les cas à Paris ou dans les grandes métropoles, la famille est élevée, les enfants sont élevés en anglais. Et tôt ou tard, ça c'est la mort du français, parce qu'après avoir été relégué dans la vie familiale, je ne dis pas domestique, mais il sera relégué dans les bibliothèques. Je ne sais pas d'ailleurs comment on lira les grands textes français, comment on assurera la transmission culturelle, à partir littéraire à tout le moins, mais encore plus largement, philosophique et autres, à partir de textes qui devront être traduits en anglais. Bon, alors, c'est un premier problème. Le deuxième, c'est qu'il y a toujours un moment où de vagues indiens dans leur réserve avec leurs plumes, ce que vous êtes et ce que je suis, réagissent. C'est ce qui est arrivé au Québec aussi. Alors, ils ont d'abord réagi violemment, ils ont eu assez de... Je cherche un mot plus courtois que celui qui me vient à l'esprit, assez de...
Vigueur.
De vigueur, merci. Pour passer à l'action violente, c'est la société Saint-Jean-Baptiste dans les années 60.
Nous condamnons toujours les actions violentes, naturellement.
Naturellement, nous condamnons toujours les actions violentes, sauf quand elles sont nécessaires. Mais bref... Vous savez, il y a une violence symbolique. Hein, aussi.
Oui, la violence symbolique.
Ça arrive, hein, ça peut se faire. On peut détruire des statues, on ne tue personne. Bon. Bref, tôt ou tard, il y aura une riposte des défenseurs de la langue d'origine. Les langues ne meurent pas si facilement que ça. Beaucoup meurent, mais d'autres sont réhabilitées. Regardez le hongrois, plus personne ne le parlait. Puis quand la Hongrie a pris... dans le cadre de l'Empire austro-hongrois, un peu d'indépendance, son premier souci était de rétablir le hongrois, et maintenant tout le monde parle hongrois en Hongrie.
Mais on parlait encore gaulois au 5e ou 6e siècle en France, hein.
Je vois pas trop le rapport, là. Mais enfin, bref, c'est pareil pour l'hébreu, qui avait en grande partie disparu avec des déclinaisons, le yiddish, etc., puis qui est redevenu la langue d'une puissance, Israël. Donc, c'est pas perdu complètement, mais c'est conflictuel. Et les conflits qui ont agité la société québécoise dans les années 60 et 70 ont été extrêmement durs. Hein, et bon, il y a même eu des morts. Hein, bon.
Et les réactions des Anglo-Saxons étaient très vigoureuses.
C'est pour ça qu'il y a eu des morts, d'ailleurs.
Oui, très vigoureuses et très violentes.
Hein. Oui, très très violentes. Les Anglo, comme disent les Québécois, ne se sont pas
laissés... Les économiques et politiques étaient très fortes.
Oui. Et ça a conduit, heureusement, dans le cas du Québec, et je pense que ça peut arriver en France, à un vif redressement qui s'est appelé la Révolution tranquille, qui a été très encouragé par le coup de théâtre du Vive le Québec libre le 27, je crois, juillet 1967, et qui a abouti 10 ans plus tard à la loi 101 dont vous parliez, et qui a été un rétablissement peut-être pas durable, mais sur le coup assez magnifique, puisqu'en quelques années, le Québec est redevenu français. Alors ça s'étiole de nouveau, et de nouveau, il y a une réaction. Mais vous voyez... On peut s'en passer, et c'est pas parti gagné à tous les coups, de sorte que la brave dame qui me dit « tant mieux si la France est un pays bilingue », je crois qu'on peut répondre, au moins par les deux arguments que je viens d'avancer, d'une part le conflit inévitable et dommageable, et d'autre part le fait que s'il n'y a pas conflit, il y a extinction des deux langues. Exactement. Voilà. Alors ça serait ballot parce que, et c'est peut-être notre meilleure arme quant à l'avenir, puisque c'est le sujet de notre conversation, le monde francophone dans son ensemble n'est pas en si mauvais état. Et d'ailleurs, le français continue, pour des raisons démographiques, à croître en Afrique. Et il croît d'ailleurs avec sous l'effet de facteurs qui ne sont pas tous, et d'ailleurs les principaux, ne sont pas à notre portée. C'est pas la politique française qui concourt à défendre le français. C'est deux ou trois choses. C'est d'abord le fait que pour commercer, et la Chine s'y entend, mais l'Inde s'y met en Afrique francophone, qui est d'ailleurs, comme le dit un des membres de notre jury, Ilias Zouhari, qui est démographe, l'Afrique francophone marche mieux point de vue de la performance économique que l'Afrique anglophone. Donc, ça attire le commerce et ça attire, ça crée des marchés qui attirent des puissances principalement asiatiques, Chine, Inde et sans doute d'autres, qui savent très bien qu'il faut elles-mêmes apprendre le français pour commercer dans ces pays francophones, à moins qu'elles passent directement à l'anglais. Je ne sais pas exactement ce qu'il en est.
Oui, mais... D'ailleurs, j'ai quelques chiffres pour nos auditeurs.
Oui.
Il y a 20% des échanges économiques internationaux se font en français, et ça représente 15% du revenu brut mondial.
Ben voilà.
Et la langue française est la troisième langue des affaires. Ça concerne à peu près 350 millions de personnes, dont 250 locuteurs quotidiens de la langue française,
voilà.
En particulier en Afrique.
Et c'est justement ce point d'appui africain auquel je veux en venir, qui est précieux, parce que ça fait boule de neige. J'ai rencontré cet hiver un Nigérian qui me dit « les universités au Nigeria ne sont pas bonnes ». J'ai dû aller, maintenant il est étudiant en Europe, j'ai dû aller à partir de Lagos et aller à Lomé, parce que les universités y sont bien meilleures. Et à Lomé, on parle français, les universités parlent français, plus d'ailleurs que dans certains établissements comme Sciences Po, où par exemple, une partie notable et grandissante des cours sont données en anglais, par exemple, Sciences Po à Paris, bref. Donc vous voyez, il y a à l'extérieur des atouts, et puis ça fait boule de neige. Ce Nigérian a été obligé d'apprendre le français pour poursuivre et achever ses études à Lomé.
Ça, c'est très important, puisque en fait, ce n'est pas du tout relayé en France. Et l'exemple le plus frappant, c'est les Jeux de la francophonie de 2023.
Personne ne parle en France.
Personne n'a parlé en France,
oui.
Alors que y avait 2000 concurrents, 37 délégations. Et c'est des Jeux, en plus, qui ressemblent aux jeux de Pierre de Coubertin, puisqu'il y a des disciplines olympiques qui sont des jeux d'esprit, en fait. Des poèmes, des chansons.
Mais alors, vous voyez, ça, c'est pareil. C'est pas la déploration qui fera quoi que ce soit. Ce qu'il faut comprendre, c'est une partie notable, et c'est ça le problème, de Français qui veulent faire disparaître tout rayonnement de la France. C'est la gauche, en gros, qui prend pour nationalisme le moindre reportage sur les Jeux de la francophonie, par exemple.
Voilà, il n'y a eu rien du tout, alors que à Londres, quoi, en Angleterre, pour les Jeux du Commonwealth, c'est très bien retransmis.
parce que les Anglais tiennent plus à leur, encore qu'ils sont très menacés par d'autres phénomènes, mais ils tiennent plus à leur existence que la plupart des Français, en tous les cas les Français de gauche, dont je répète qu'ils tiennent pour un nationalisme exacerbé, c'est-à-dire un pré-fascisme, pour ne pas dire un fascisme d'extrême droite, l'idée même de mentionner le français et la francophonie, même sous les traits les plus anodins, comme l'organisation de... assez réussi en général.
Kinshasa, qui est le plus grand pays francophone.
Les jeux de la francophonie. Bon, à Kinshasa, c'était assez merveilleux pour les images que j'en ai vues, mais beaucoup de Français n'ont... Bon, alors donc, le problème, c'est ça. Hein, c'est le désamour d'une partie notable des Français pour la France en général, et le français en particulier, et la francophonie, oui. Encore plus, puisqu'elle est frappée de l'opprobre de nationalisme. Alors, c'est ça qu'il faut redresser. C'est pas tant... le larmoiement, c'est restaurer l'image de la France dans l'idée des Français. On voit à quel point elle est atteinte, notamment par des secteurs de gauche et d'extrême gauche qui sont en train de glisser eux-mêmes d'ailleurs au pur fascisme, comme on le voit ces derniers jours. Donc, c'est renversable. On peut argumenter, mais il faut argumenter sur ce terrain. De l'amour de soi et de la confiance en soi et de l'admiration pour ses œuvres et le rayonnement que ses œuvres et sa langue peuvent avoir à l'étranger. Alors, c'est là où je voudrais dire quelque chose. Le temps nous est compté, mais je le dis donc de façon un peu brutale. Je me heurte, nous nous heurtons, mon cher Marc, à une objection de plus en plus fréquente, hélas, quand il est question de francophonie, y compris dans notre propre monde, c'est-à-dire grosso modo à droite, dans toute sa diversité. Il fut un temps où Radio Courtoisie avait, je crois toujours, pour slogan « Toutes les droites, tous les talents ».
Oui, voilà, « Toutes les droites,
c'est très bien. C'est
Radio
très
de la francophonie, de toutes les droites,
la francophonie, justement, je crois qu'on l'a un peu laissé sous le boisseau, mais on pourrait la reprendre. Mais justement, si on l'a laissé sous le boisseau, c'est que beaucoup d'esprits de droite se disent, et j'ai eu aussi ce réflexe parmi mes proches, « Ouh là là, la francophonie, c'est la voie d'accès à l'immigration de masse. » Et ça... c'est l'idée, s'il nous reste 5 minutes, c'est l'idée que je voudrais...
Nous avons encore un petit peu de temps.
Bon, c'est l'idée que je voudrais contrebattre. Non seulement la francophonie n'est pas la voie d'accès à l'immigration de masse, mais elle en est très certainement, elle est certainement le contrepoison. Loin de moi l'idée que l'immigration de masse...
Un poison, naturellement.
Qui est en réalité plus qu'une immigration de masse maintenant. C'était d'abord l'immigration dans les années 70, ensuite ça a été l'immigration de masse dans les années 80 et 90, avec, après la politique socialiste lamentable et criminelle des années Giscard et des années Mitterrand, oui. On est passé maintenant, depuis 15 ou 20 ans, de l'immigration de masse à l'invasion, purement et simplement une invasion lente, de type invasion barbare des premiers siècles de notre ère. Donc face à cela, il faut savoir quels instruments nous disposons.
Les termes de l'invasion barbare,
je les garde. N'ayez pas peur, Marc.
C'est comme Jean-Paul II, je n'ai pas peur.
Disons les choses telles qu'elles sont. Vous savez, les invasions barbares, faut aussi regarder, elles ont été un apport d'une certaine façon aussi. Hein,
faut mais pas, les invasions barbares, ça se sont faites sur la durée en réalité, et avec beaucoup moins de pourcentage de population.
C'est un titre utilisé par Daniel Arcand dans un film formidable, un québécois. Je ne sais pas si c'est Daniel Arcand, je ne me souviens plus, qui s'appelle Les Invasions barbares. Bon,
d'ailleurs, dans le monde germanique, ils ne parlent pas d'invasions barbares. Quand les Allemands parlent de l'arrivée des Francs ou des Vandales, ce ne sont pas des invasions barbares.
Bon, bref, le sujet, c'est comment considérer, de quel œil considérer la francophonie et l'hypothétique organisation de la francophonie dans le cadre de ce... Enfin, face à ce qui... Alors, on peut mettre des guillemets, s'appelle en bon français une invasion lente. Je pense que loin d'être, je répète ce que je disais, loin d'être un défaut, le réflexe francophone est une arme. D'abord, parce que, comme nous le disions tout à l'heure, la démographie a sa force propre, et que quoi que nous en disions, même si on ne parle jamais de francophonie, même si on ne défend plus la langue française, il n'en reste pas moins qu'il y aura de plus en plus d'Africains qui parleront français.
Exactement.
Et qui seront de plus en plus nombreux, parce que, vous le savez, d'ici la fin de ce siècle, un homme sur trois sera africain.
On parle en 2060 de 700 millions de francophones. Ou de la sphère francophone, c'est peut-être un peu plus large.
Oui, et 2 milliards d'Africains.
Oui, oui, et beaucoup.
Et sans doute à la fin de ce siècle, pas loin de 3 milliards d'Africains. Donc, quoi que nous disions, quoi que nous fassions, ils seront là. Et une partie notable parleront français, de toute façon. Donc, ça ne. C'est pas parce qu'on ne parle pas de francophonie qu'il n'y aura pas des francophones à nos portes ou de l'autre
D'ailleurs,
côté de la Méditerranée.
Lorsqu'on regarde les quelques éléments des médias africains, il y a beaucoup de médias africains qui ne sont pas liés du tout à la France. Hein. Il y a un certain nombre de francs, Afrique 24, Vox Africa,
oui.
qui sont des radios qui n'ont rien à voir avec la France, et également des radios internationales comme la Voix de l'Amérique, la Deutsche Welle, le BBC, et qui émettent en français.
Quelquefois, oui. Et c'est ce que je disais, à partir du moment où le français tient ses positions à tout le moins en Afrique, mais aussi en Amérique latine, parce que ça a été mieux...
On va passer le Bobino.
Oui, attendez, est-ce que je peux finir une phrase?
Oui.
Non, le Bobino, il peut attendre la fin de la phrase quand même. On n'est pas là, bon. Alors, écoutez, passez votre Bobino, parce que je ne sais plus ce que je disais.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Voilà. On va passer le Bobino et je vais pouvoir en prendre un entretien avec Paul-Marie Couteau.
Bon, alors...
Sans l'interrompre.
Bon... Je ne sais pas, de toute façon, il faut dire au revoir à tout le monde, là, maintenant. Donc, je disais qu'il y a non seulement une inutilité foncière à mettre de côté la francophonie. D'ailleurs, ceux qui le font, ce n'est pas des esprits de droite, des conservateurs, des gens qui tiennent à leur pays. C'est ceux, justement, qui veulent le détruire. L'attitude symptomatique est celle d'Emmanuel Macron, qui, pour être sûr de mettre sous le boisseau la seule organisation internationale de la francophonie qui tenait à peu près son cap du temps où il a été dirigé par Boutros Ghali, puis par Abdou Diouf, et ensuite par une Canadienne dont j'oublie le nom au moment de le dire, qui n'était pas inactive, pour remplacer la dite canadienne, Emmanuel Macron, au sommet d'Erevan, il y a 3 ans, je crois, a imposé une candidate rwandaise, dont j'ai oublié le nom, mais c'est un nom...
C'est Louise Michi-Iwabo.
Difficile à retenir, Michi-Iwabo, vous voyez, bon. Qui s'était signalée pour sa lutte constante au Rwanda, contre le français, qui d'ailleurs est une nationalité américaine aussi bien que rwandaise. La moitié du gouvernement rwandais est composée de citoyens qui sont à la fois rwandais et états-uniens, qui ont le double nationalité, c'est très à la mode. Monsieur Kagame, président du Rwanda, est un affidé de Davos, il n'en loupe pas une, enfin vous voyez à peu près le genre de personnage, qui en même temps est un génocidaire de première catégorie, parce que c'est lui qui a lancé l'affreuse opération de 94 qui eut les effets que l'on sait.
On a déjà parlé de ça sur...
Pas le seul à le dire, mais laissez-moi les propos, de manière générale, laissez-moi les propos que je tiens. Voilà.
Éviter que le CSA, c'est plus le CSA d'ailleurs.
Maintenant. Ah bah écoutez, si on ne peut même plus parler,
mais,
non seulement
si,
finir une phrase, mais même dire quoi que ce soit, parce que le CSA...
Ou L'ARCOM, je crois.
L'ARCOM veille, alors à ce moment-là, on reste chez soi, ou je vais partir au Québec, alors je ne sais pas où il faut aller pour avoir... possibilité de parler. Qu'est-ce que je disais? Oui, le président Macron a réussi à éteindre l'organisation de la francophonie en le confiant à une anti-francophone notoire, cette ministre de l'Éducation qui avait fait fermer des écoles en langue française. Elle avait même fait détruire une au bulldozer à Kigali, donc c'est la mort de l'Organisation internationale de la francophonie. Mais ne nous y trompons pas, c'est pas parce qu'on supprimera toute action de la France en faveur de la francophonie, je répète, que le français ne continuera pas à croître, et que de toute façon la question se posera, y compris sur le terrain migratoire. C'est au contraire parce que nous aurons des liens étroits dans un cadre propre quand je dis propre, c'est-à-dire ce qu'a été l'organisation de la francophonie un certain temps, c'est-à-dire nous sommes entre nous, il ne faut pas l'élargir au-delà du nécessaire, on l'a aussi noyé cette organisation en l'élargissant à l'excès. Que l'on pourra créer des politiques, y compris des politiques d'immigration et de remigration. Il est nécessaire de faire, peut-être pas avec les mêmes méthodes, ce que les États-Unis pratiquent depuis le président Obama, et que certes, le président Trump a un peu survolté à l'excès sans doute, mais enfin, ça, la culture états-unienne est excessive de nature et violente. Mais il faut certainement garder à l'esprit que la remigration est une des clés pour nous de toute politique nationale à l'avenir. Il faudra en user. Mais on ne peut en user que si on a des relations avec les pays d'origine. Et la francophonie est le cadre idéal pour l'avoir, et pour réguler les flux migratoires, et pour renvoyer des clandestins arrivés parce qu'ils parlent français par la bande, en tous les cas en contrebande, et ils n'accepteront leurs ressortissants que si on a de bons rapports avec eux, et notamment si on a des rapports de coopération bilatéraux assez solides. Donc ça parle en faveur de la francophonie, justement la nécessité d'une politique de remigration. À quoi s'ajoute un dernier élément que je ne fais que mentionner, il y a bien entendu un moyen de réguler puissamment l'immigration, eh bien c'est encore la langue française. C'est-à-dire de faire en sorte que la nationalité française, ou même quelques papiers que ce soit, assurant, alors il y a hélas un très grand nombre de biais, on s'y perd, assurant une pérennité de présence sur le territoire, alors au-delà du visa touristique, qui doit être limité vraiment à un mois. Enfin, et puis à partir de un mois, on peut considérer qu'une personne s'installe à peu près durablement sur le territoire national. À ce moment-là, les papiers idoines doivent mentionner, assurer une maîtrise suffisante du français. Il suffit de hisser le numéro, le niveau de cette maîtrise suffisante, cette exigence-là, pour évidemment réguler les flux migratoires beaucoup plus puissamment.
Ça a été modifié récemment.
Oui, mais c'est la bonne direction. Il faut évidemment rendre l'épreuve de français, sinon très difficile, du moins suffisamment sérieuse, pour s'assurer que les ressortissants étrangers qui veulent s'installer durablement plusieurs mois ou plusieurs années en France parlent français. Et je pense que ça aussi, ça devrait nous inciter à avoir le souci de la langue française, y compris pour réguler les flux entrants, et comme je disais tout à l'heure, par une bonne entente avec des gouvernements francophones, établi dans un cadre de connivence ou de solidarité francophone, ça peut exister. Vous savez, au sommet de l'île Maurice en 1993, on avait édicté entre nous la fameuse exception culturelle qui a eu des effets et qui a permis notamment de poursuivre dans plusieurs pays européens la politique d'exception culturelle, comme on le disait alors, et dont il faut le dire tout de suite. Donc vous voyez, le souci du français d'abord et le souci de la francophonie ensuite sont des instruments de régulation de l'immigration et des politiques de défense de notre culture en général et notre langue en particulier. Je dis ça pour contrebattre l'obsession ou le réflexe plutôt, mais un peu obsessionnel, de gens qui nous disent la francophonie c'était bien avant, mais maintenant c'est un appel d'air pour des immigrations renouvelées. C'est exactement le contraire, et je voudrais que l'on s'en persuade au moins entre nous, et que ceux qui seront peut-être chargés un jour, je ne désespère pas du tout, je suis d'ailleurs plutôt optimiste, vous savez, je ne pense pas, je ne suis pas progressiste, Marx, je ne pense pas que l'histoire soit linéaire, d'ailleurs.
Non, l'histoire n'est pas linéaire.
Pendant des siècles et des siècles, l'idée du progrès, l'idée stupide du progrès, l'idée d'ailleurs tellement souffrante, parce que ça fait souffrir le progrès, le progressisme, on le voit aujourd'hui, engendre la violence, et le progrès est une violence, la nécessité de progresser toujours, de faire toujours mieux, est une violence que l'on s'inflige à soi-même. Respectons ce qui est, tout simplement, et admirons-le, et puis ça suffit comme ça. Enfin, je pense que le mieux est l'ennemi du bien, voilà. En quoi je suis conservateur,
voilà,
mon cher
Marc. Nouveau conservateur, c'est ça le nouveau, nouveau conservatisme.
C'est que nous considérons que le mieux est l'ennemi du bien. Donc restons tranquilles, et je pense que plutôt qu'une conception linéaire de l'histoire, nous devrions revenir à la conception qui était celle de nos racines, de nos premières civilisations, c'est-à-dire des cycles. Alors là, on est dans une période très basse, en fait, de défense de la nation, de la culture française, de la langue française. Mais si tout est cycle, tout revient toujours. Donc quand vous me disiez que j'étais pessimiste, je ne le suis pas. Parce que je suis comme le général de Gaulle, qui répétait tout le temps, puisque tout revient, puisque tout recommence toujours.
Éternel retour.
Bah écoutez, je suis très nietzschéen de ce point de vue-là. Figurez-vous que nous sommes tombés d'accord, Michel Onfray et moi, pour communier dans cette idée nietzschéenne de l'éternel retour, mais c'est aussi l'idée des anciens, de tous les anciens, oui. Des Grecs, vous savez, Platon, Socrate.
Cycle éternel.
Évidemment, il faut sortir de cette espèce de souffrance progressiste qui veut absolument que nous progressions vers un avenir meilleur. Ça, c'est une des raisons des modernes. Et nous sommes conservateurs, c'est-à-dire tout sauf modernes.
Parfait, ce sont les derniers mots de cette émission. Et puisque j'ai encore 40 secondes, je rappelle à nos amis de Radio Courtoisie et à nos auditeurs qu'il y a la troupe en chantier joue les derniers mots d'amour, qui est une pièce par laquelle nous avons parlé il y a quelques mois, et ça se joue à la fête du théâtre en Auvergne à Clermont-Ferrand. Il suffit d'aller sur le site. Donc je dis à nos auditeurs au 23 mars 2026. Bon mois et bonne semaine.
Vous venez d'entendre « Français, mon beau souci » dirigé par Marc Favre d'Échalant, diffusé en direct sur Radio Courtoisie lundi 23 février 2026 de 10h à 11h et réalisé par Claudia. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs, aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.